oscillation intemporelle. Et si le dimanche à 19h était le moment d'une autre évasion sonore décalée, pas pareil sur fréquence 7, le moment d'une pause grandiose, intimiste, virtuose aussi, qui résonne de créations sonores et musicales d'au-delà notre quotidien, ce que très largement chacun appelle selon son goût dans notre monde occidental, musique classique, musique savante ou grande musique. Oscillation intemporelle est animée par Mario Micro et à la conception, avec la complicité de Philippe Forger et le soutien technique de Sylvain. Diffusion le 2 novembre 2025 de cet épisode et rediffusion le 16 novembre. Pour une écoute à votre convenance, rendez-vous sur le site fréquence7.net en lecture directe ou téléchargée. Pour ce mois de novembre, aux journées de plus en plus courtes et sombres pour les lève-tard, j'ai choisi de partager avec vous de la gaieté, de l'entrain, du rythme, avec Stravinsky et Mozart à un tempo de scherzo.
Alors, on va commencer par cette petite citation de Mozart qui disait « Le plus difficile en musique, c'est le tempo ». Il y a une petite invention qui date du tout début du 19e, qui a tout révolutionné, qui s'appelle le métronome. Avant, il n'y en avait pas. Donc, quand on met le métronome, tic-tac, tic-tac, on va dire, tiens, ma pulsation, elle est à 60. Tic-tac, tic-tac. Elle est à 92, un peu plus rapide. Tic-tac, tic-tac, voilà. Et du coup, avant la création du métronome, il n'y avait pas de possibilité d'interroger la mesure métronomique. Donc, on met des termes qui sont plus suggestifs, subjectifs, en tous les cas, voilà. Alors, il y a toute une terminologie pour les mouvements lents. Alors, on va dire, par exemple, l'argot. L'argot, c'est large. Alors, ça ne veut pas dire que ça nous fait une vitesse très précise, hein. Ça veut dire, c'est large. Après, le compositeur, dans son écriture, il nous invite à comprendre un petit peu, à faire une proposition par rapport à cette idée de quelque chose de large. Donc, il y a l'argot. Si c'est pas trop l'argot, un petit peu moins que l'argot, quand même. Allez, l'arghetto. C'est-à-dire c'est un petit largot, donc on va essayer de faire avancer un petit peu la machine quand même.
Hein. Un peu plus rapide.
Un petit, oui, enfin, pas trop lent, on va dire plutôt. Voilà, pas trop lent. Lento, ça existe aussi. Hein. Lento, ça existe. Grave, c'est-à-dire solennel, quoi, en quelque sorte. Hein. Grave. Andante, alors andante, ça a toujours été perçu comme quelque chose de lent. Mais non, ça veut dire allant. Andante, c'est allant. Voilà. Donc effectivement, on a pas mal de choses comme ça. Sostenuto, c'est aussi un caractère une bonne indication pour le tempo, c'est soutenu. Donc quelque chose de soutenu, donc sostenuto. Alors après, on peut faire des combinaisons, hein. Andante sostenuto, on peut en trouver plein, des comme ça. On a effectivement des allegro, donc ça veut dire vif. Allegro non tanto, vif mais pas tant que ça. Allegro con fuoco, vif avec du feu. Voilà, on a ça, on a des presto, des prestissimo, on a des prestissimo assai ou allegro assai, c'est-à-dire beaucoup, 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 voilà, on va le traduire comme ça. Dans la musique instrumentale, avant d'en être à la symphonie et au concerto, les premières œuvres sur lesquelles on groupait des mouvements, c'était des suites de ballets. Donc on mettait des danses à la suite les unes des autres, et ça donnait les premières suites d'orchestre, mais aussi les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, par exemple. Ce ne sont que des mouvements de danse. Donc il y avait une gavotte, il y avait un menuet, il y avait une courante, il y avait une bourrée, il y avait une sarabande. Et ça, c'est aussi des indications de tempo, parce que là, c'est directement relié au corps. Le corps, il ne va pas danser une sarabande comme il va danser un menuet, et comme il va danser une bourrée, comme il va danser une gavotte. Donc c'est aussi une indication de tempo. Voilà. Par exemple, le menuet va rester comme un mouvement possible des symphonies. C'est souvent le troisième mouvement d'une symphonie de Mozart ou d'une symphonie de Haydn. Et puis à un moment donné, Beethoven va dire « Tiens, je vais enlever le menuet, je vais mettre un petit mouvement espiègle, quelque chose d'assez insaisissable comme ça, mais une plaisanterie. Scherzo. » Voilà. Et scherzare, c'est plaisanter. Donc un scherzo, c'est une petite plaisanterie en quelque sorte. Donc on va mettre un scherzo qui remplace le menuet, le minuetto. Voilà, donc tout ça, c'est notre terminologie. Symphonie, ça vient de sinfonia. Et sinfonia, c'était juste trois mouvements vifs, lents, vifs, qui étaient joués accolés les uns aux autres et qui pouvaient servir pour commencer une suite de ballet, par exemple. Donc la sinfonia va devenir la symphonie, où le vif, lent, vif vont se décomposer en trois mouvements. Un premier mouvement plutôt rapide, plutôt vif, un deuxième mouvement plutôt lent, et un troisième mouvement plutôt vif. Et entre le deuxième et le troisième, on va en rajouter un autre qui sera le menuet ou le scherzo. Voilà, c'est comme ça que nos formes et nos terminologies se définissent. Et puis après, les Allemands sont arrivés, Schubert écrit ses mouvements en allemand, Schumann aussi, Mahler, Wagner, on se met à écrire vraiment plutôt dans sa langue. Mais c'est très rigolo à observer parce que au-delà de Andante, Allegro, Presto, Concerto, Symphonie et tout ça, il y a aussi, quand on regarde la musique française, si je regarde Couperin au XVIIIe siècle ou si je regarde Poulenc ou Ravel, avec tendresse, dans un halo de pédales, nous dit Poulenc, sur des pièces pour piano, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses qui sont suggérées comme ça, avec beaucoup de poésie et beaucoup de couleurs aussi.
Et nous écoutons Wolfgang Mozart, une petite musique de nuit, Köchel 525, c'est-à-dire la Serena numéro 13 pour cordes en sol majeur, pour un quintet à cordes, deux violons, un alto, un violoncelle et une contrebasse. Composé par Mozart en 1787, interprété par le Gewandhaus Quartet à 5, avec Frank-Michael Erben, premier violon, Konrad Süsk, deuxième violon, Volker Metz, alto, Jürgen Jacob Thiem, violoncelle, et Stefan Adelman, contrebasse. Les mouvements, premier mouvement Allegro en sol majeur, le deuxième Romance Andante en do majeur, et do mineur, le troisième menuet et trio allegretto en sol majeur, le trio en ré majeur, et le quatrième rondo allegro en sol majeur.
Thank you.
Il y a le tempo et le rythme, c'est différent, décalé, mais pas pareil.
Alors le rythme au démarrage, c'est lié à la prosodie et la voix. C'est-à-dire que quand on parle, il y a un rythme des choses. Donc l'instrument, il va chercher à copier ça. Comme peut-être la musique cherche à imiter la nature. Donc peut-être l'instrument cherche, par le rythme, à copier la prosodie de la voix. Donc l'écriture rythmique, elle est importante. Parce que s'il n'y avait pas de rythme, tout serait absolument statique. Donc le rythme, c'est ce qui nous permet effectivement d'avoir un moteur sur les choses. Donc ça, c'est fondamental. Le rythme et le tempo, c'est deux choses très différentes. Le tempo, c'est la vitesse à laquelle on réalise les choses. Et à l'intérieur du tempo, on va pouvoir bâtir les rythmes. Voilà. Mais il y a des rythmes très distendus, comme si on était en apesanteur. Je pense à des mouvements lents de symphonie de Bruckner, par exemple, où on met du temps à comprendre dans quel tempo on est et comment le compositeur bâtit sa dramaturgie rythmique. Parce qu'on est en apesanteur, on est comme un cosmonaute dans l'espace, tous les gestes sont là, mais avec une lenteur incroyable. Au début, on est déstabilisé par ça. Puis le corps s'habitue et on finit par l'entendre. Et dans l'autre sens, il y a évidemment des choses extrêmement rapides, virtuose, avec des rythmes brillants ou très complexes. Dans les rythmes très complexes, si je parle du Sacre du Printemps de Stravinsky, par exemple, voilà, on est sur une écriture rythmique très très engagée, très très violente, et peut-être même que le rythme est l'élément principal de certaines partitions, comme le Sacre du Printemps. En tous les cas, le rythme, c'est le moteur des choses.
Et l'écriture du rythme ?
C'est-à-dire que, comme on a créé la barre de mesure, on a été obligé de tout mettre à l'intérieur de cette barre de mesure pour respecter des équivalences et des cohérences. Donc c'est un système mathématique, hein, puisqu'on va dire, par exemple, une ronde fait 4 temps. Donc dans une ronde, il y a 2 blanches. Donc chaque blanche, elle fait également 2 temps. Donc dans une blanche, il y a 2 noirs. Donc dans une ronde, il y aura 4 noirs. Mais dans chaque noir, il y a 2 croches, etc., etc., etc. Donc on est vraiment dans un système mathématique.
Voilà, et à ce moment-là, si on divise en 4, on indique au début de la mesure, oui, qu'on va être dans un système qui coupe en 4.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, traditionnellement, il y a 2 chiffres l'un au-dessus de l'autre sur une portée. Le premier, celui du haut, va nous dire quelle est la division. Par exemple, ça va être marqué 4. 4, 2, je dis n'importe quoi, hein, 4, 2. 4 au-dessus, 2 en dessous. Le 4, ça va être, il y aura 4 unités. Et c'est quelle unité ? C'est le 2 qui nous le précise. C'est une blanche. Le 2, c'est synonyme de la blanche. Donc ça veut dire que dans la mesure, il y a 4 unités de blanche, donc il y a l'équivalent de 4 blanches. 4 blanches ou les équivalents.
Donc 4, 4, c'est 4 noirs.
À 4, 4, c'est 4 noirs. 4, 8, c'est 4 croches.
Et si j'en veux 6, 3 ou 6 ?
Alors, ça dépend, parce qu'on peut aussi compresser l'écriture. Mais du coup, on est sur un rapport de pulsation qui a changé. Et il y a des notifications spécifiques. Par exemple, faire rentrer trois notes là où on en faisait rentrer deux. C'est-à-dire que d'avoir pam, 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 on va essayer d'avoir pam, 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 pam. On va mettre nos trois notes, on va mettre une petite accolade au-dessus, puis on va écrire un gentil petit 3 qui voudra dire triolet. Voilà.
Et donc en rythme endiablé, nous écoutons Stravinsky, Le Sacre du Printemps par le Columbia Symphony Orchestra, dirigé par Igor Stravinsky lui-même et enregistré en janvier 1960 à New York.